Jules Amédée Barbey d'Aurevilly, Les Diaboliques, La vengeance d'une femme, partie 2. Tressigny, presque terrassé par ces incroyables paroles, n'eut pas le moindre doute sur la vérité de cette renversante affirmation. Il était sûr que cette fille n'avait pas menti. Il venait de la reconnaître. La ressemblance qu'il avait tant frappée au boulevard était justifiée. Il l'avait rencontrée déjà, il n'y avait pas si longtemps. C'était à Saint-Jean-de-Luz, où il était allé passer la saison des bains une année. Précisément cette année-là, la plus haute société espagnole s'était donné rendez-vous sur la côte de France, dans cette petite ville qui est si près de l'Espagne qu'on s'y rêverait en Espagne encore, et que les Espagnols les plus épris de leur péninsule peuvent y venir en villégiature sans croire faire une infidélité à leur pays. La duchesse de Sierra Leone avait habité tout un été cette bourgade, si profondément espagnole par les mœurs, le caractère, la physionomie, les souvenirs historiques. Car on se rappelle que c'était là que furent célébrées les fêtes du mariage de Louis XIV, le seul roi de France qui, par parenthèse, ait ressemblé à un roi d'Espagne, et que c'est là aussi que vint échouer, après son naufrage, la grande fortune dématée de la princesse des Oursins. La duchesse de Sierra Leone était alors, disait-on, dans la lune de miel de son mariage avec le plus grand et le plus opulent seigneur de l'Espagne. Quand, de son côté, Tressigny arriva dans ce nid de pêcheurs qui a donné les plus terribles flibustiers au monde, elle y étalait un faste qu'on n'y connaissait plus depuis Louis XIV, et, parmi ces basquaises qui, en fait de beauté, ne craignent la rivalité de personne, avec leurs tailles de canets forts antiques et leurs yeux d'aigle marine si pâlement pères, une beauté qui pourtant terrassait la leur. Attirée par cette beauté, et d'ailleurs d'une naissance et d'une fortune à pouvoir pénétrer dans tous les mondes, Robert de Tressigny s'efforça d'aller jusqu'à elle, mais le groupe de sociétés espagnoles dont la duchesse était la souveraine, strictement fermé, cette année-là ne s'ouvrit à aucun des Français qui passèrent la saison à Saint-Jean-de-Luz. La duchesse, entrevue de loin ou sur les dunes du rivage ou à l'église, repartit sans qu'il pût la connaître. Et pour cette raison, elle lui était restée dans le souvenir comme un de ces météores, d'autant plus brillants dans notre mémoire qu'ils ont passé et que nous ne les reverrons jamais. Il parcourut la Grèce et une partie de l'Asie, mais aucune des créatures les plus admirables de ces pays, où la beauté tient tant de place qu'on ne conçoit pas le paradis sans elle, ne put lui effacer la tenace et flamboyante image de la duchesse. Eh bien, aujourd'hui, par le fait d'un hasard étrange et incompréhensible, cette duchesse, admirée un instant et disparue, revenait dans sa vie par le plus incroyable des chemins. Elle faisait un métier infâme, il l'avait acheté. Elle venait de lui appartenir, elle n'était plus qu'une prostituée, et encore de la prostitution la plus basse, car il y a une hiérarchie jusque dans l'infamie. La superbe duchesse de Sierra Leone, qu'il avait rêvé et peut-être aimé, le rêve étant si près de l'amour dans nos âmes, n'était plus, était-ce bien possible, qu'une fille du pavé de Paris. C'était elle qui venait de se rouler dans ses bras tout à l'heure, comme elle s'était roulée probablement la veille dans les bras d'un autre, le premier venu comme lui, et comme elle se roulerait encore dans les bras d'un troisième demain, et qui sait, peut-être dans une heure. Ah, cette découverte abominable le frappait à la poitrine et au front d'un coup de massue de glace. L'homme en lui qui flambait, il n'y avait qu'une minute, qui, dans son délire, croyait voir courir du feu jusque sur les corridors de cet appartement, embrasé par ses sensations, restait désenivré, transi, écrasé. L'idée, la certitude que c'était là réellement la duchesse de Sierra Leone n'avait pas ranimé ses désirs, éteint aussi vite qu'une chandelle qu'on souffle, et ne lui avait pas fait remettre sa bouche avec plus d'avidité que la première fois, au feu brûlant où il avait bu à pleine gorgée. En se révélant, la duchesse avait emporté jusqu'à la courtisane. Il n'y avait plus ici pour lui que la duchesse, mais dans quel état ? Souillé, abîmé, perdu, une femme à la mer, tombée de plus haut que du rocher de Leucate, dans une mer de boue, immonde et dégoûtante à ne pouvoir l'y repêcher. Il la fixait d'un œil hébété, assise droite et sombre, métamorphosée et tragique, de Messaline, changée tout à coup il ne savait en quelle mystérieuse Agrippine, sur l'extrémité du canapé où ils s'étaient vautrés tous les deux. Et l'envie ne le prenait pas de la toucher du bout des doigts, cette créature dont il venait de pétrir avec des mains idolâtres les formes puissantes, pour attester que c'était bien là ce corps de femme qu'il avait fait bouillonner, que ce n'était pas une illusion, qu'il ne rêvait pas, qu'il n'était pas fou. La duchesse, en émergeant à travers la fille, l'avait anéantie. « Oui, lui dit-il d'une voix qu'il s'arracha de la gorge où elle était collée, tant ce qu'il avait entendu l'avait strangulé. Je vous crois. Il ne la tutoyait déjà plus, car je vous reconnais. Je vous ai vu à Saint-Jean-de-Luz il y a 3 ans. » À ce nom rappelé de Saint-Jean-de-Luz, une clarté passa sur le front qui venait pour lui de s'envelopper, avec son incroyable aveu, dans de si prodigieuses ténèbres. « Ah ! » dit-elle sous la lueur de ce souvenir, « j'étais alors dans toutes les ivresses de la vie, et à présent. » L'éclair était déjà éteint, mais elle n'avait pas baissé sa tête volontaire. « Et à présent, » dit Tressigny qui lui fit écho, « à présent, » reprit-elle, « je ne suis plus que dans l'ivresse de la vengeance. Mais je la ferai assez profonde, » ajouta-t-elle avec une violence concentrée, « pour y mourir dans cette vengeance, comme les mosquitos de mon pays, qui meurent, gorgés de sang dans la blessure qu'ils ont faite. » En lisant sur le visage de Tressigny, « Vous ne comprenez pas, » dit-elle, « mais je m'en vais vous faire comprendre. Vous savez qui je suis, mais vous ne savez pas tout ce que je suis. Voulez-vous le savoir ? Voulez-vous savoir mon histoire ? Le voulez-vous ? » reprit-elle avec une insistance exaltée. « Moi, je voudrais la dire à tous ceux qui viennent ici. Je voudrais la raconter à toute la terre. J'en serais plus infâme, mais j'en serais mieux vengé. » « Dites-la, » fit Tressigny, crocheté par une curiosité et un intérêt qu'il n'avait jamais ressenti à ce degré, ni dans la vie, ni dans les romans, ni au théâtre. Il lui semblait bien que cette femme allait lui raconter de ces choses, comme il n'en avait pas entendu encore. Il ne pensait plus à sa beauté. Il la regardait comme s'il avait désiré assister à l'autopsie de son cadavre. Allait-elle le faire revivre pour lui ? « Oui, reprit-elle, j'ai voulu bien des fois déjà la raconter à ceux qui montent ici. Mais ils n'y montent pas, disent-ils, pour écouter des histoires. Lorsque je la leur commençais, ils m'interrompaient ou ils s'en allaient, brutes repus de ce qu'elles étaient venues chercher. Indifférents, moqueurs, insultants, ils m'appelaient menteuse ou bien folle. Ils ne me croyaient pas. Tandis que vous, vous me croirez. Vous, vous m'avez vu à Saint-Jean-de-Luz, dans toutes les gloires d'une femme heureuse, au plus haut sommet de la vie, portant, comme un diadème, ce nom de Sierra Leone que je traîne maintenant à la queue de ma robe dans toutes les fanges, comme on traînait à la queue d'un cheval autrefois le blason d'un chevalier déshonoré. Ce nom que je hais et dont je ne me pars que pour la vilir est encore porté par le plus grand seigneur des Espagnes et le plus orgueilleux de tous ceux qui ont le privilège de rester couverts devant sa majesté le roi, car il se croit 10 fois plus noble que le roi. Pour le duc d'Arcos de Sierra Leone, que sont toutes les plus illustres maisons qui ont régné sur les Espagnes, Castille, Aragon, Autriche et Bourbon? Il est, dit-il, plus ancien qu'elle. Il descend, lui, des anciens rois Goths, et par Brunehilde, il est allié aux Mérovingiens de France. Il se pique de n'avoir dans les veines que de ce sang azul, dont les plus vieilles races, dégradées par les mésalliances, n'ont plus maintenant que quelques gouttes. Don Cristobal d'Arcos, duc de Sierra Leone, ne s'était pas, lui, mésallié en m'épousant. Je suis une Torre Cremata, de l'ancienne maison des Torre Cremata d'Italie, la dernière des Torre Cremata, race qui finit en moi, bien digne du reste de porter ce nom de Torre Cremata, tour brûlée, car je suis brûlé à tous les feux de l'enfer. Le grand inquisiteur Torquemada, qui était un Torre Cremata d'origine, a infligé moins de supplices pendant toute sa vie qu'il n'y en a dans ce saint maudit. Il faut vous dire que les Torre Cremata n'étaient pas moins fiers que les Sierra Leone. Divisés en deux branches également illustres, ils avaient été durant des siècles tout-puissants en Italie et en Espagne. Au XVe, sous le pontificat d'Alexandre VI, les Borgia, qui voulurent, dans leur enivrement de la grande fortune de la papauté d'Alexandre, s'apparenter à toutes les maisons royales de l'Europe, se dirent nos parents. Mais les Torre Cremata repoussèrent cette prétention avec mépris, et deux d'entre eux payèrent de leur vie cette audacieuse hauteur. Ils furent, dit-on, empoisonnés par César. Mon mariage avec le duc de Sierra Leone fut une affaire de race à race. Ni de son côté, ni du mien, il n'entra de sentiment dans notre union. C'était tout simple qu'une Torre Cremata épousa un Sierra Leone. C'était tout simple même pour moi, élevé dans la terrible étiquette des vieilles maisons d'Espagne, qui représentait celle de l'Escurial. Dans cette dure et compressive étiquette qui empêcherait les cœurs de battre, si les cœurs n'étaient pas plus forts que ce corset de fer, je fus un de ces cœurs-là. J'aimais Don Esteban. Avant de le rencontrer, mon mariage, sans bonheur de cœur, j'ignorais même que j'en eusse un, fut la chose grave qu'il était autrefois dans la cérémonieuse et catholique Espagne, et qui ne l'est plus à présent que par exception dans quelques familles de haute classe qui ont gardé les mœurs antiques. Le duc de Sierra Leone était trop profondément espagnol pour ne pas avoir les mœurs du passé. Tout ce que vous avez entendu dire en France de la gravité de l'Espagne, de ce pays altier, silencieux et sombre, le duc l'avait et l'outrepassait. Trop fier pour vivre ailleurs que dans ses terres, il habitait un château féodal sur la frontière portugaise, et il s'y montrait dans toutes ses habitudes plus féodal que son château. Je vivais là, près de lui, entre mon confesseur et mes caméristes, de cette vie somptueuse, monotone et triste, qui aurait écrasé d'ennui toute âme plus faible que la mienne. Mais j'avais été élevé pour être ce que j'étais, l'épouse d'un grand seigneur espagnol. Puis j'avais la religion d'une femme de mon rang, et j'étais presque aussi impassible que les portraits de mes aïeuls qui ornaient les vestibules et les salles du château de Sierra Leone, et qu'on y voyait représentés, avec leurs grandes mines sévères, dans leurs garde-infants et sous leurs busques d'acier. Je devais ajouter une génération de plus à ces générations de femmes irréprochables et majestueuses, dont la vertu avait été gardée par la fierté comme une fontaine par un lion. La solitude dans laquelle je vivais ne pesait point sur mon âme, tranquille comme les montagnes de marbre rouge qui entourent Sierra Leone. Je ne soupçonnais pas que sous ces marbres dormait un volcan. J'étais dans les limbes d'avant la naissance. Mais j'allais naître et recevoir d'un seul regard d'homme le baptême du feu. Don Esteban, marquis de Vasconcelos, de race portugaise et cousin du duc, vint à Sierra Leone. Et l'amour, dont je n'avais eu l'idée que par quelques livres mystiques, me tomba sur le cœur, comme un aigle tombe à pic sur un enfant qui l'enlève et qui crie. Je criais aussi. Je n'étais pas pour rien une Espagnole de vieille race. Mon orgueil s'insurgea contre ce que je sentais en présence de ce dangereux Esteban, qui s'emparait de moi avec cette révoltante puissance. Je dis au duc de le congédier sous un prétexte ou sous un autre, de lui faire au plus vite quitter le château, que je m'apercevais qu'il avait pour moi un amour qui m'offensait comme une insolence. Mais Don Cristobal me répondit, comme le duc de Guise, à l'avertissement que Henri III l'assassinerait. Il n'oserait. C'était le mépris du destin qui se vengea en s'accomplissant. Ce mot me jeta à Esteban. Elle s'arrêta un instant, et il l'écoutait, parlant cette langue élevée qui, à elle seule, lui aurait affirmé, s'il avait pu en douter, qu'elle était bien ce qu'elle disait, la duchesse de Sierra Leone. Ah, la fille du boulevard était alors entièrement effacée. On eût juré d'un masque tombé et que la vraie figure, la vraie personne, reparaissait. L'attitude de ce corps effréné était devenue chaste. Tout en parlant, Elle avait pris derrière elle un châle, oublié au dos du canapé, et elle s'en était enveloppée. Elle en avait ramené les plis sur ce sein maudit, comme elle l'avait nommé, mais auquel la prostitution n'avait pu enlever la perfection de sa rondeur et sa fermeté virginale. Sa voix même avait perdu la rossicité qu'elle avait dans la rue. Était-ce une illusion produite par ce qu'elle disait ? Mais il semblait à Tressigny que cette voix était d'un timbre plus pur, qu'elle avait repris sa noblesse. « Je ne sais pas, continua-t-elle, si les autres femmes sont comme moi, mais cet orgueil incrédule de Don Cristobal, ce dédaigneux et tranquille, il n'oserait, en parlant de l'homme que j'aimais, m'insulta pour lui, qui, déjà dans le fond de mon être, avait pris possession de moi comme un dieu. « Prouve-lui que tu oseras, lui dis-je le soir même en lui déclarant mon amour. Je n'avais pas besoin de le lui dire. Esteban m'adorait depuis le premier jour qu'il m'avait vu. Notre amour avait eu la simultanéité de deux coups de pistolet tirés en même temps et qui tuent. J'avais fait mon devoir de femme espagnole en avertissant Don Cristobal. Je ne lui devais que ma vie, puisque j'étais sa femme. Car le cœur n'est pas libre d'aimer, et ma vie, il l'aurait prise très certainement en mettant à la porte de son château Don Esteban, comme je le voulais. Avec la folie de mon cœur déchaîné, je serais morte de ne plus le voir, et je m'étais exposée à cette terrible chance. Mais puisque lui, le duc, mon mari, ne m'avait pas comprise, puisqu'il se croyait au-dessus de Vasconcelos, qu'il lui paraissait impossible que celui-ci élevât les yeux et son hommage jusqu'à moi, je ne poussais pas plus loin l'héroïsme conjugal contre un amour qui était mon maître. Je n'essaierai pas de vous donner l'idée exacte de cet amour. Vous ne me croiriez peut-être pas, vous non plus. Mais qu'importe après tout ce que vous penserez. Croyez-moi ou ne me croyez pas. Ce fut un amour tout à la fois brûlant et chaste, un amour chevaleresque, romanesque, presque idéal, presque mystique. Il est vrai que nous avions 20 ans à peine. Et que nous étions du pays des Bivar, d'Ignace de Loyola et de Sainte-Thérèse. Ignace, ce chevalier de la Vierge, n'aimait pas plus purement la reine des cieux que ne m'aimait Vasconcelos. Et moi, de mon côté, j'avais pour lui quelque chose de cet amour extatique que Sainte-Thérèse avait pour son époux divin. L'adultère, fi donc ! Est-ce que nous pensions que nous pouvions être adultères ? Le cœur battait si haut dans nos poitrines, nous vivions dans une atmosphère de sentiments si transcendants, si élevés, que nous ne sentions en nous rien des mauvais désirs et des sensualités des amours vulgaires. Nous vivions en plein azur du ciel. Seulement ce ciel était africain, et cet azur était du feu. Un tel état d'âme aurait-il duré ? Était-ce bien possible qu'il durât ? Ne jouions-nous pas là, sans le savoir, sans nous en douter, le jeu le plus dangereux pour de faibles créatures, et ne devions-nous pas être précipités, dans un temps donné, de cette hauteur immaculée ? Esteban était pieux comme un prêtre, comme un chevalier portugais du temps d'Albuquerque. Moi, je valais assurément moins que lui, mais j'avais en lui, et dans la pureté de son amour, une foi qui enflammait la pureté du mien. Il m'avait dans son cœur comme une madone dans sa niche d'or avec une lampe à ses pieds, une lampe inextinguible. Il aimait mon âme pour mon âme. Il était de ces rares amants qui veulent grande la femme qu'ils adorent. Il me voulait noble, dévoué, héroïque, une grande femme de ces temps où l'Espagne était grande. Il aurait mieux aimé me voir faire une belle action que de valser avec moi souffle à souffle. Si les anges pouvaient s'aimer entre eux devant le trône de Dieu, ils devraient s'aimer comme nous nous aimions. Nous étions tellement fondus l'un dans l'autre que nous passions de longues heures ensemble et seuls, la main dans la main, les yeux dans les yeux, pouvant tout, puisque nous étions seuls, mais tellement heureux que nous ne désirions pas davantage. Quelquefois, ce bonheur immense qui nous inondait nous faisait mal à force d'être intense, et nous désirions mourir. Mais l'un avec l'autre, ou l'un pour l'autre. Et nous comprenions alors le mot de Sainte Thérèse, « Je meurs de ne pouvoir mourir. » Ce désir de la créature finie, succombant sous un amour infini, et croyant faire plus de place à ce torrent d'amour infini par le brisement des organes et la mort. Je suis maintenant la dernière des créatures souillées, mais dans ce temps-là, croirez-vous que jamais, jamais, les lèvres d'Esteban n'ont touché les miennes, et qu'un baiser déposé par lui sur une rose et repris par moi me faisait évanouir. Du fond de l'abîme d'horreur où je me suis volontairement plongé, je me rappelle à chaque instant, pour mon supplice, ces délices divines de l'amour pur dans lesquelles nous vivions, perdus et perdus, et si transparents sans doute dans l'innocence de cet amour sublime que Don Cristobal n'eut pas grand-peine à voir que nous nous adorions. Nous vivions la tête dans le ciel. Comment nous apercevoir qu'il était jaloux, et de quelle jalousie ? De la seule dont il fut capable, de la jalousie de l'orgueil. Il ne nous surprit pas. On ne surprend que ceux qui se cachent. Nous ne nous cachions pas. Pourquoi nous serions-nous cachés ? Nous avions la candeur de la flamme en plein jour qu'on aperçoit dans le jour même. Et d'ailleurs, le bonheur débordait trop de nous pour qu'on ne le vît pas. Et le duc le vit. Cela creva enfin les yeux de son orgueil, cette splendeur d'amour. Ah, Esteban avait osé, moi aussi. Un soir, nous étions comme nous étions toujours, comme nous passions notre vie depuis que nous nous aimions, tête à tête, unis par le regard seul. Lui à mes pieds, devant moi, comme devant la Vierge Marie, dans une contemplation si profonde que nous n'avions besoin d'aucune caresse. Tout à coup, le duc entra avec deux noirs qu'il avait ramenés des colonies espagnoles dont il avait été longtemps gouverneur. Nous ne les aperçûmes pas dans la contemplation céleste qui enlevait nos âmes en les unissant, quand la tête d'Esteban tomba lourdement sur mes genoux. Il était étranglé. Les noirs lui avaient jeté autour du cou ce terrible lazo avec lequel on étrangle au Mexique les taureaux sauvages. Ce fut la foudre pour la rapidité. Mais la foudre qui ne me tua pas. Je ne m'évanouis point, je ne criai pas, nulle larme ne jaillit de mes yeux, je restais muette et rigide, dans un état sans nom d'horreur, d'où je ne sortis que par un déchirement de tout mon être. Je sentis qu'on m'ouvrait la poitrine et qu'on m'en arrachait le cœur. Hélas, ce n'était pas à moi qu'on l'arrachait, c'était à Esteban. À ce cadavre d'Esteban qui gisait à mes pieds, étranglé, la poitrine fendue, fouillée comme un sac par les mains de ces monstres. J'avais ressenti, tant j'étais par l'amour devenu lui, ce qu'aurait senti Esteban s'il avait été vivant. J'avais ressenti la douleur que ne sentait pas son cadavre, et c'était cela qui m'avait tiré de l'horreur dans laquelle je m'étais figé quand il me l'avait étranglé. Je me jetai sur eux. « À mon tour !» leur criai-je. Je voulais mourir de la même mort et je tendis ma tête à l'infâme lacet. Ils allaient la prendre. « On ne touche pas à la reine !» fit le duc. Cet orgueilleux duc qui se croyait plus que le roi. Et il les fit reculer en les fouettant de son fouet de chasse. « Non, vous vivrez, madame, me dit-il, mais pour penser toujours à ce que vous allez voir. » Et il siffla. Deux énormes chiens sauvages accoururent. Qu'on fasse manger, dit-il, le cœur de ce traître à ses chiens. Oh, à cela, je ne sais quoi, se redressa en moi. Allons donc, venge-toi mieux, lui dis-je. C'est à moi qu'il faut le faire manger. Il resta comme épouvanté à mon idée. Tu l'aimes donc furieusement, reprit-il. Ah, je l'aimais d'un amour qu'il venait d'exaspérer. Je l'aimais à n'avoir ni peur ni dégoût de ce cœur saignant, plein de moi, chaud de moi encore. Et j'aurais voulu le mettre dans le mien, ce cœur. Je le demandais à genoux, les mains jointes. Je voulais épargner à ce noble cœur adoré cette profanation impie, sacrilège. J'aurais communié avec ce cœur comme avec une hostie. N'était-il pas mon Dieu ? La pensée de Gabriel de Vergy, dont nous avions lu Esteban et moi tant de fois l'histoire ensemble, avait surgi en moi. Je l'enviais. Je la trouvais heureuse d'avoir fait de sa poitrine un tombeau vivant à l'homme qu'elle avait aimé. Mais la vue d'un amour pareil rendit le duc atrocement implacable. Ses chiens dévorèrent le cœur d'Esteban devant moi. Je le leur disputais, je me battis avec ces chiens. Je ne pus le leur arracher. Ils me couvrirent d'affreuses morsures et traînèrent et essuyèrent à mes vêtements leur gueule sanglante. Elle s'interrompit. Elle était devenue livide à ses souvenirs. Et haletante, elle se leva d'un mouvement forcené et tirant à elle un tiroir de commode par sa poignée de bronze, elle montra à Tressigny une robe en lambeaux, teinte de sang à plusieurs places. « Tenez, dit-elle, c'est là, le sang du cœur de l'homme que j'aimais et que je n'ai pu arracher au chien. Quand je me retrouve seul dans l'exécrable vie que je mène, quand le dégoût m'y prend, quand la boue m'en monte à la bouche et m'étouffe, quand le génie de la vengeance faiblit en moi, que l'ancienne duchesse revient et que la fille m'épouvante, je m'entortille dans cette robe. Je vautre mon corps souillé dans ses plis rouges, toujours brûlant pour moi, et j'y réchauffe ma vengeance. C'est un talisman que ces haillons sanglants. Quand je les ai autour du corps, la rage de le venger me reprend aux entrailles, et je me retrouve de la force, à ce qu'il me semble, pour une éternité. » Tressigny frémissait en écoutant cette femme effrayante. Il frémissait de ses gestes, de ses paroles, de sa tête devenue une tête de gorgone. Il lui semblait voir autour de cette tête les serpents que cette femme avait dans le cœur. Il commençait alors de comprendre, le rideau se tirait, ce mot « vengeance » qu'elle disait tant, qui lui flambait toujours aux lèvres. « La vengeance, oui, reprit-elle. Vous comprenez maintenant ce qu'elle est, ma vengeance ? Ah, je l'ai choisie entre toutes, comme on choisit de tous les genres de poignards celui qui doit faire le plus souffrir, le cric dentelé qui doit le mieux déchirer l'être abhorré qu'on tue. Le tuer simplement, cet homme, et d'un coup ? Je ne le voulais pas. Avait-il tué, lui, Vashkanchelos, avec son épée, comme un gentilhomme ? Non. Il l'avait fait tuer par des valets. Il avait fait jeter son cœur au chien et son corps au charnier, peut-être. Je ne le savais pas. Je ne l'ai jamais su. Le tuer pour tout cela, non. C'était trop doux, trop rapide. Il fallait quelque chose de plus lent, de plus cruel. D'ailleurs, le duc était brave. Il ne craignait pas la mort. Les Sierra Leone l'ont affronté à toutes les générations, mais son orgueil, son immense orgueil était lâche quand il s'agissait de déshonneur. Il fallait donc l'atteindre et le crucifier dans son orgueil. Il fallait donc déshonorer son nom dont il était si fier. Eh bien, je me jurais que ce nom, je le tremperais dans la plus infecte des boues, que je le changerais en honte, en immondice, en excrément. Et pour cela, je me suis faite ce que je suis, une fille publique, la fille Sierra Leone qui vous a raccroché ce soir. » Elle dit ces dernières paroles avec des yeux qui se mirent à étinceler de la joie d'un coup bien frappé. « Mais, dit Tressigny, le sait-il, lui, le duc, ce que vous êtes devenu ? S'il ne le sait pas, il le saura un jour, répondit-elle avec la sécurité absolue d'une femme qui a pensé à tout, qui a tout calculé, qui est sûre de l'avenir. Le bruit de ce que je fais peut l'atteindre d'un jour à l'autre, d'une éclaboussure de ma honte. Quelqu'un des hommes qui monte ici peut lui cracher au visage le déshonneur de sa femme, ce crachat qu'on n'essuie jamais. Mais ce ne serait là qu'un hasard, et ce n'est pas un hasard que je livrerais ma vengeance. J'ai résolu d'en mourir pour qu'elle soit plus sûre. Ma mort l'assurera en l'achevant. » Tressigny était dépaysée par l'obscurité de ses dernières paroles, mais elle en fit jaillir une hideuse clarté. « Je veux mourir où meurent les filles comme moi. Rappelez-vous, il fut un homme sous François Ier qui alla chercher chez une de mes pareilles une effroyable et immonde maladie qu'il donna à sa femme pour en empoisonner le roi dont elle était la maîtresse, et c'est ainsi qu'il se vengea de tous les deux. Je ne ferai pas moins que cet homme. Avec ma vie ignominieuse de tous les soirs, il arrivera bien qu'un jour la putréfaction de la débauche saisira et rongera enfin la prostituée et qu'elle ira tomber par morceaux et s'éteindre dans quelque honteux hôpital. Oh, alors ma vie sera payée, ajouta-t-elle avec l'enthousiasme de la plus affreuse espérance. Alors, il sera temps que le duc de Sierra Leone apprenne comment sa femme, la duchesse de Sierra Leone, aura vécu et comment elle meurt. Tressini n'avait pas pensé à cette profondeur dans la vengeance. Ni l'Italie du XVIe siècle, ni la Corse de tous les âges, ces pays renommés pour l'implacabilité de leurs ressentiments, n'offraient à sa mémoire un exemple de combinaison plus réfléchie et plus terrible que celle de cette femme, qui se vengeait à même elle, à même son corps, comme à même son âme. Il était effrayé de ce sublime horrible, car l'intensité dans les sentiments poussés à ce point est sublime. Seulement, c'est le sublime de l'enfer. Et quand il ne le saurait pas, reprit-elle encore, redoublant d'éclairs sur son âme, moi, après tout, je le saurai. Je saurai ce que je fais chaque soir, que je bois cette fange, et que c'est du nectar puisque c'est ma vengeance. Est-ce que je ne jouis pas à chaque minute de la pensée de ce que je suis? Est-ce qu'au moment où je le déshonore, ce duc Altier, je n'ai pas, au fond de ma pensée, l'idée enivrante que je le déshonore? Est-ce que je ne vois pas clairement dans ma pensée tout ce qu'il souffrirait s'il le savait? Ah, les sentiments comme les miens ont leur folie, mais c'est leur folie qui fait le bonheur. Quand je me suis enfui de Sierra Leone, j'ai emporté avec moi le portrait du duc, pour lui faire voir, à ce portrait, comme si ça avait été à lui-même les hontes de ma vie. Que de fois je lui ai dit, comme s'il avait pu me voir et m'entendre, « Regarde donc, regarde !» Et quand l'horreur me prend dans vos bras, à tous vous autres, car elle m'y prend toujours, je ne puis pas m'accoutumer au goût de cette fange. J'ai pour ressource ce bracelet. Et elle leva son bras superbe d'un mouvement tragique. J'ai ce cercle de feu qui me brûle jusqu'à la moelle et que je garde à mon bras, malgré le supplice de l'y porter, pour que je ne puisse jamais oublier le bourreau d'Esteban, pour que son image excite mes transports, ces transports d'une haine vengeresse, que les hommes sont assez bêtes et assez fats pour croire du plaisir qu'ils savent donner. Je ne sais pas ce que vous êtes, vous, mais vous n'êtes certainement pas le premier venu parmi tous ces hommes. Et cependant vous avez cru, il n'y a qu'un instant, que j'étais encore une créature humaine, qu'il y avait encore une fibre qui vibrait en moi. Il n'y avait en moi que l'idée de venger Esteban, du monstre dont voici l'image. Ah, son image, c'était pour moi comme le coup de l'éperon, large comme un sabre, que le cavalier arabe enfonce dans le flanc de son cheval pour lui faire traverser le désert. J'avais, moi, des espaces de honte encore plus grands à dévorer, et je m'enfonçais cette exécrable image dans les yeux et dans le cœur, pour mieux bondir sous vous quand vous me teniez. Ce portrait, c'était comme si c'était lui. C'était comme s'il nous voyait par ses yeux peints, comme je comprenais l'envoûtement des siècles où l'on vous envoûtait, comme je comprenais le bonheur insensé de planter le couteau dans le cœur de l'image de celui qu'on eût voulu tuer. Dans le temps que j'étais religieuse, avant d'aimer cet Esteban qui a pour moi remplacé Dieu, j'avais besoin d'un crucifix pour mieux penser au crucifié. Et au lieu de l'aimer, je l'aurais haï, j'eusse été une impie, que j'aurais eu besoin du crucifix pour mieux le blasphémer et l'insulter. Hélas, ajouta-t-elle, changeant de ton et passant de l'âpreté des sentiments les plus cruels aux douceurs poignantes d'une incroyable mélancolie, je n'ai pas le portrait d'Esteban. Je ne le vois que dans mon âme, et c'est peut-être heureux, ajouta-t-elle. Je l'aurai sous les yeux qu'il relèverait mon pauvre cœur, qu'il me ferait rougir des indignes abaissements de ma vie. Je me repentirai et je ne pourrai plus le venger. La Gorgone était devenue touchante, mais ses yeux étaient restés secs. Tressini, émue d'une toute autre émotion que celle-là, par laquelle jusqu'ici elle l'avait fait passer, lui prit la main, à cette femme qu'il avait le droit de mépriser, et il la lui baisa avec un respect mêlé de pitié. Tant de malheur et d'énergie la lui grandissaient. Quelle femme, pensait-il, si au lieu d'être la duchesse de Sierra Leone, elle avait été la marquise de Vasconcelos. Elle eût, avec la pureté et l'ardeur de son amour pour Esteban, offert à l'admiration humaine quelque chose de comparable et d'égal à la grande marquise de Pesquer, Seulement, ajouta-t-il en lui-même, elle n'aurait pas montré, et personne n'aurait jamais su, quel gouffre de profondeur et de volonté était en elle. Malgré le scepticisme de son époque et l'habitude de se regarder faire et de se moquer de ce qu'il faisait, Robert de Trécigny ne se sentit point ridicule d'embrasser la main de cette femme perdue. Mais il ne savait plus que lui dire. Sa situation vis-à-vis d'elle était embarrassée. En jetant son histoire entre elle et lui, elle avait coupé, comme avec une hache, ces liens d'une minute qu'il venait de nouer. Il y avait en lui un inexprimable mélange d'admiration, d'horreur et de mépris. Mais il se serait trouvé de très mauvais goût de faire du sentiment ou de la morale avec cette femme. Il s'était souvent moqué des moralistes, sans mandat et sans autorité, qui pullulaient dans ce temps-là, où, sous l'influence de certains drames et de certains romans, on voulait se donner les airs de relever, comme des pots de fleurs renversés, les femmes qui tombaient. Il était, tout sceptique qu'il fût, doué d'assez de bon sens pour savoir qu'il n'y avait que le prêtre seul, le prêtre du Dieu rédempteur, qui put relever de pareilles chutes. Et encore croyait-il que, contre l'âme de cette femme, le prêtre lui-même se serait brisé. Il avait en lui une implication de choses douloureuses et il gardait un silence plus pesant pour lui que pour elle. Elle, tout à la violence de ses idées et de ses souvenirs, continua. Cette idée de le déshonorer, au lieu de le tuer, cet homme, pour qui l'honneur, comme le monde l'entend, était plus que la vie, ne me vint pas tout de suite. Je fus longtemps à trouver cela. Après la mort de Vasconcelos, qu'on ne sut peut-être pas dans le château, dont le corps fut probablement jeté dans quelque oubliette avec les noirs qu'il avait assassinés, le duc ne m'adressa plus la parole, si ce n'est brièvement et cérémonieusement devant ses gens. Car la femme de César ne doit pas être soupçonnée, et je devais rester aux yeux de tous l'impeccable duchesse d'Arcos de Sierra Leone. Mais, tête à tête et entre nous, jamais un seul mot, jamais une allusion. Le silence, ce silence de la haine, qui se nourrit d'elle-même et n'a pas besoin de parler. Don Cristobal et moi, nous luttions de force et de fierté. Je dévorais mes larmes. Je suis une Torre Cremata. J'ai en moi la puissante dissimulation de ma race qui est italienne, et je me bronzais jusque dans les yeux pour qu'il ne pût pas soupçonner ce qui fermentait sous ce front de bronze où couvait l'idée de ma vengeance. Je fus absolument impénétrable. Grâce à cette dissimulation qui boucha tous les jours de mon être par lesquels mon secret aurait pu filtrer, je préparais ma fuite de ce château dont les murs m'écrasaient, et où ma vengeance n'aurait pu s'accomplir que sous la main du duc, qui se serait vite levé. Je ne me confiais à personne. Est-ce que jamais mes duègnes ou mes caméristes avaient osé lever leurs yeux sur mes yeux pour savoir ce que je pensais? J'eus d'abord le projet d'aller à Madrid, mais à Madrid le duc était tout-puissant, et le filet de toutes les polices se serait refermé sur moi à son premier signal. Il m'y aurait facilement reprise, et reprise une fois, il m'aurait jeté dans l'inpace de quelque couvent, étouffé là, tué entre deux portes, supprimé du monde, de ce monde dont j'avais besoin pour me venger. Paris était plus sûr, je préférais Paris. C'était une meilleure scène pour l'étalage de mon infamie et de ma vengeance. Et puisque je voulais qu'un jour tout cela éclatât comme la foudre, quelle bonne place que cette ville, le centre de tous les échos, à travers laquelle passent toutes les nations du monde. Je résolus d'y vivre de cette vie de prostituée qui ne me faisait pas trembler, et d'y descendre impudemment jusqu'au dernier rang de ces filles perdues qui se vendent pour une pièce de monnaie, fût-ce à des goujats. Pieuse comme je l'étais avant de connaître Esteban, qui m'avait arraché Dieu de la poitrine pour s'y mettre à la place, je me levais souvent la nuit sans mes femmes pour faire mes oraisons à la Vierge Noire de la chapelle. C'est de là qu'une nuit, je me sauvais et gagnais audacieusement les gorges des Sierras. J'emportais tout ce que je pus de mes bijoux et de l'argent de ma cassette. Je me cachai quelque temps chez des paysans qui me conduisirent à la frontière. Je vins à Paris. Je m'y attelai, sans peur, à cette vengeance qui est ma vie. J'en suis tellement assoiffé de cette fureur de me venger que parfois j'ai pensé à affoler de moi quelque jeune homme énergique et à le pousser vers le duc pour lui apprendre mon ignominie. Mais j'ai fini toujours par étouffer cette pensée, car ce n'est pas quelques pieds d'ordure que je veux élever sur son nom et sur ma mémoire, c'est toute une pyramide de fumier. Plus je serai tard vengé, mieux je serai vengé. » Elle s'arrêta. De livide, elle était devenue pourpre. La sueur lui découlait des tempes. Elle s'enrouait. Était-ce le croup de la honte ? Elle saisit fébrilement une carafe sur la commode et se versa un énorme verre d'eau qu'elle lampa. « Cela est dur à passer, la honte, » fit-elle. « Mais il faut qu'elle passe. J'en ai assez avalé depuis 3 mois pour qu'elle puisse passer. « Il y a donc 3 mois que ceci dure, il n'osait plus dire quoi, » fit Tressigny, avec un vague plus sinistre que la précision. « Oui, » dit-elle, « 3 mois. » « Mais qu'est-ce que 3 mois ? » ajouta-t-elle. « Il faudra du temps pour cuire et recuire ce plat de vengeance que je lui cuisine, et qui lui paiera son refus du cœur d'Esteban, qu'il n'a pas voulu me faire manger. » Elle dit cela avec une passion atroce et une mélancolie sauvage. Tressigny ne se doutait pas qu'il pût y avoir dans une femme un pareil mélange d'amour idolâtre et de cruauté. Jamais on n'avait regardé avec une attention plus concentrée une œuvre d'art qu'il ne regardait cette singulière et toute-puissante artiste en vengeance qui se dressait alors devant lui. Mais quelque chose qu'il était étonné d'éprouver se mêlait à sa contemplation d'observateur. Lui qui croyait en avoir fini avec les sentiments involontaires et dont la réflexion, au rire terrible, mordait toujours les sensations, comme j'ai vu des charretiers mordre leurs chevaux pour les faire obéir, sentait que dans l'atmosphère de cette femme, il respirait un air dangereux. Cette chambre pleine de tant de passions physiques et barbares asphyxiait ce civilisé. Il avait besoin d'une gorgée d'air et il pensait à s'en aller, dût-il revenir ? Elle crut qu'il partait, mais elle avait encore des côtés à lui faire voir dans son chef-d'œuvre. « Et cela ? » fit-elle avec un dédain et un geste retrouvé de duchesse, en lui montrant du doigt la coupe de verre bleu qu'il avait remplie d'or. « Reprenez cet argent. Qui sait, je suis peut-être plus riche que vous. L'or n'entre pas ici, je n'en accepte de personne. » Et avec la fierté d'une bassesse qui était sa vengeance, elle ajouta « Je ne suis qu'une fille à 100 sous. » Le mot fut dit comme il était pensé. Ce fut le dernier trait de ce sublime à la renverse, de ce sublime infernal dont elle venait de lui étaler le spectacle, et dont certainement le plus grand Corneille, au fond de son âme tragique, ne se doutait pas. Le dégoût de ce dernier mot donna à Tressigny la force de s'en aller. Il rafla les pièces d'or de la coupe et n'y laissa que ce qu'elle demandait. « Puisqu'elle le veut, dit-il, je pèserai sur le poignard qu'elle s'enfonce, et j'y mettrai aussi ma tache de boue, puisque c'est de boue qu'elle a soif. » Et il sortit dans une agitation extrême. Les candélabres inondaient toujours de leur lumière cette porte, si commune d'aspect, par laquelle il était déjà passé. Il comprit pourquoi était plantée là cette orchère, quand il regarda la carte collée sur la porte, comme l'enseigne de cette boutique de chair. Il y avait sur cette carte en grandes lettres la duchesse d'Arcos de Sierra Leone, et au-dessous un mot ignoble pour dire le métier qu'elle faisait. Tressigny rentra chez lui ce soir-là, après cette incroyable aventure, dans une situation si troublée qu'il en était presque honteux. Les imbéciles, c'est-à-dire à peu près tout le monde, croient que rajeunir serait une invention charmante de la nature humaine. Mais ceux qui connaissent la vie savent mieux le profit que ce serait. Tressigny se dit avec effroi qu'il allait peut-être se retrouver trop jeune. Et voilà pourquoi il se promit de ne plus mettre le pied chez la duchesse, malgré l'intérêt, ou plutôt à cause de l'intérêt, que cette femme inouïe lui infligeait. Pourquoi se dit-il retourner dans ce lieu malsain d'infection, au fond duquel une créature de haute origine s'est volontairement précipitée ? Elle m'a conté toute sa vie, et je peux imaginer sans effort les détails qui ne peuvent changer de cette horrible vie de chaque jour. Telle fut la résolution de Tressigny, prise énergiquement au coin du feu dans la solitude de sa chambre. Il s'y calfeutra quelque temps contre les choses et les distractions du dehors, tête à tête avec les impressions et les souvenirs d'une soirée que son esprit ne pouvait s'empêcher de savourer, comme un poème étrange et tout-puissant auquel il n'avait rien lu de comparable ni dans Byron ni dans Shakespeare, ses deux poètes favoris. Aussi passa-t-il bien des heures accoudé au bras de son fauteuil, à feuilleter rêveusement en lui les pages toujours ouvertes de ce poème d'une hideuse énergie. Ce fut là un lotus qui lui fit oublier les salons de Paris, sa patrie. Il fallut même le coup de collier de sa volonté pour y retourner. Les irréprochables duchesses qu'il y retrouva lui semblèrent manquer un peu d'accent. Quoiqu'il ne fût pas une bégueule, ce Tressigny, ni ses amis non plus, il ne leur dit pas un seul mot de son aventure, par un sentiment de délicatesse qu'il traitait d'absurde, car la duchesse ne lui avait-elle pas demandé de raconter à tout venant son histoire et de la faire rayonner aussi loin qu'il pourrait la faire rayonner? Il la garda pour lui, au contraire. Il la mit et la scella dans le coin le plus mystérieux de son être, comme on bouche un flacon de parfum très rare, dont on perdrait quelque chose en le faisant respirer. Chose étonnante avec la nature d'un homme comme lui, ni au café de Paris, ni au cercle, ni à l'orchestre des théâtres, ni nulle part où les hommes se rencontrent seuls et se disent tout, il n'aborda jamais un de ses amis, sans avoir peur de lui entendre raconter, comme lui étant arrivé, l'aventure qui était la sienne. Et cette chose qui pouvait arriver faisait surgir en lui une perspective qui, dans les 10 premières minutes d'une conversation, lui causait un léger tremblement. Nonobstant, il se tint parole, et non seulement il ne retourna pas rue Basse du Rempart, mais au boulevard. Il ne s'appuya plus, comme le faisaient les autres gants jaunes, les lions du temps, contre la balustrade de Tortoni. « Si je revoyais flotter sa diable de robe jaune, se disait-il, je serais peut-être encore assez bête pour la suivre. » Toutes les robes jaunes qu'il rencontrait le faisaient rêver. Il aimait à présent les robes jaunes, qu'il avait toujours détestées. « Elle m'a dépravé le goût, se disait-il, et c'est ainsi que le dandy se moquait de l'homme. » Mais ce que Madame de Staël, qui les connaissait, appelle quelque part les pensées du démon, était plus fort que l'homme et que le dandy. Tressigny devint sombre. C'était dans le monde un homme d'un esprit animé, dont la gaieté était aimable et redoutable, ce qu'il faut que toute gaieté soit dans ce monde, qui vous mépriserait si, tout en l'amusant, vous ne le faisiez pas trembler un peu. Il ne causa plus avec le même entrain. « Est-il amoureux ?» disaient les commères. La vieille marquise de Clérambard, qui croyait qu'il en voulait à sa petite-fille, sortie tout chaud du Sacré-Cœur et romanesque comme on l'était alors, lui disait avec humeur « Je ne puis plus vous sentir quand vous prenez vos airs d'Hamlet. » De sombre, il passa souffrant, son teint se plomba. « Qu'a donc monsieur de Tressigny » disait-on, et on allait peut-être lui découvrir le cancer à l'estomac de Bonaparte dans la poitrine. Quand un beau jour, il supprima toutes les questions et inquisitions sur sa personne, en bouclant sa malle en deux temps comme un officier, et en disparaissant comme par un trou. Où allait-il? Qui s'en occupa? Il resta plus d'un an parti, puis il revint à Paris, reprendre le brancard de sa vie de mondain. Il était un soir chez l'ambassadeur d'Espagne, où ce soir-là, par parenthèse, le monde le plus étincelant de Paris fourmillait. Il était tard, on allait souper. La cohue du buffet vidait les salons. Quelques hommes, dans le salon de jeu, s'attardaient à un whist obstiné. Tout à coup, le partenaire de Tressigny, qui tournait les pages d'un petit portefeuille d'écaille sur lequel il écrivait les paris qu'on faisait à chaque robe, y vit quelque chose qui lui fit faire le « ah » qu'on fait quand on retrouve ce qu'on oubliait. « Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, dit-il au maître de la maison, qui, les mains derrière son dos, regardait jouer, y a-t-il encore des Sierra Leone à Madrid ?»« Certes, il y en a. D'abord, il y a le duc, qui est de pair avec tout ce qu'il y a de plus élevé parmi les grandesses. » Qu'est donc cette duchesse de Sierra Leone qui vient de mourir à Paris? Et qu'est-elle au duc? Reprit alors l'interlocuteur.
Elle ne pourrait être que sa femme, répondit tranquillement l'ambassadeur.
Mais il y a presque 2 ans que la duchesse est comme si elle était morte. Elle a disparu, sans qu'on sache pourquoi ni comment elle a disparu. La vérité est un profond mystère. Figurez-vous bien que l'imposante duchesse d'Arcos de Sierra Leone n'était pas une femme de ce temps-ci, une de ces femmes à folie qu'un amant enlève. C'était une femme hautaine pour les moins que les ducs, son mari, qui est bien le plus orgueilleux des ricos hombres de toute l'Espagne.
De plus, elle était pieuse, pieuse d'une piété quasi monastique. Elle n'a jamais vécu qu'à Sierra Leone, un désert des marbres rouges, où les aigles, s'il y en a, doivent tomber asphyxiés d'ennui de leurs pics. Un jour, elle en a disparu, et jamais on n'a pu retrouver sa trace. Depuis ce temps-là, le duc, un homme du temps de Charles Quint, à qui personne n'a jamais osé poser la moindre question, est venu habiter Madrid. Il n'y a pas plus parlé de sa femme et de sa disparition que si elle n'avait jamais existé. C'était en son nom une Torre Cremata, la dernière des Torre Cremata de la branche d'Italie. « C'est bien cela, » interrompit le joueur. Et il regarda ce qu'il avait écrit sur un des feuillets de son calepin d'écaille. « Eh bien, » ajouta-t-il solennellement, « Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, j'ai l'honneur d'annoncer à votre Excellence que la duchesse de Sierra Leone a été enterrée ce matin. Et ce dont assurément vous ne vous douteriez jamais, qu'elle a été enterrée à l'église de la Salpêtrière, comme une pensionnaire de cet établissement. » À ces paroles, les joueurs tournèrent le nez à leurs cartes et les plaquèrent devant eux sur la table, regardant tour à tour, effarés, celui-là qui parlait et l'ambassadeur. « Mais oui, » dit le joueur qui faisait son effet, cette chose délicieuse en France. « Je passais par là ce matin, et j'ai entendu le long des murs de l'église un si majestueux tonnerre de musique religieuse que je suis entré dans cette église, peu accoutumé à de pareilles fêtes, et que je suis tombé de mon haut en passant par le portail, drapé de noir et semé d'armoiries à double écusson, et voir dans le chœur le plus resplendissant catafalque. L'église était à peu près vide. Il y avait au banc des pauvres quelques mendiants, et ça et là quelques femmes, de ces horribles lépreuses de l'hôpital qui est à côté, du moins de celles-là qui ne sont pas tout à fait folles, et qui peuvent encore se tenir debout. Surpris d'un pareil personnel auprès d'un pareil catafalque, je me suis approché, et j'ai lu, en grosses lettres d'argent sur fond noir, cette inscription que j'ai ma foi copiée, de surprise et pour ne pas l'oublier. « Si J. Sanzia Florinda Concepcion de Torre Cremata, duchesse d'Arcos de Sierra Leone, fille repentie, morte à la Salpêtrière. Requiescat in pace. » Les joueurs ne songeaient plus à la partie. Quant à l'ambassadeur, quoiqu'un diplomate ne doive pas plus être étonné qu'un officier ne doive avoir peur, il sentit que son étonnement pouvait le compromettre. « Et vous n'avez pas pris des renseignements ? » fit-il comme s'il eût parlé à un de ses inférieurs. « À personne, Excellence, » répondit le joueur. « Il n'y avait que des pauvres, et les prêtres qui peut-être auraient pu me renseigner chantaient l'office. D'ailleurs, je me suis souvenu que j'aurais l'honneur de vous voir ce soir. » « Je les aurai demain, » fit l'ambassadeur. Et la partie s'acheva, mais coupée d'interjections et chacun si préoccupé de sa pensée que tout le monde fit des fautes parmi ses forts whisters et que personne ne s'aperçut de la pâleur de Tressigny qui saisit son chapeau et sortit sans prendre congé de personne. Le lendemain, il était de bonne heure à la Salpêtrière. Il demanda le chapelain, un vieux bonhomme de prêtre, lequel lui donna tous les renseignements qu'il lui demanda sur le numéro 119 qu'était devenue la duchesse d'Arcos de Sierra Leone. La malheureuse était venue s'abattre où elle avait prévu qu'elle s'abattrait. À ce jeu terrible qu'elle avait joué, elle avait gagné la plus effroyable des maladies. En peu de mois, dit le vieux prêtre, elle s'était cariée jusqu'aux os. Un de ses yeux avait sauté un jour brusquement de son orbite et était tombé à ses pieds comme un gros sou. L'autre s'était liquéfié et fondu. Elle était morte, mais stoïquement, dans d'intolérables tortures. Riche d'argent encore et de ses bijoux, elle avait tout légué aux malades de la maison qui l'avait accueillie et prescrit de solennelles funérailles. Seulement pour se punir de ses désordres, dit le vieux prêtre qui n'avait rien compris du tout à cette femme-là. Elle avait exigé par pénitence et par humilité qu'on mît après ses titres, sur son cercueil et sur son tombeau, qu'elle était une fille repentie. Et encore, ajouta le vieux chapelain, dupe de la confession d'une pareille femme, par humilité, elle ne voulait pas qu'on m'y repentît. Tressigny se prit à sourire amèrement du brave prêtre, mais il respecta l'illusion de cette âme naïve. Car il savait, lui, qu'elle ne se repentait pas et que cette touchante humilité était encore, après la mort, de la vengeance. Fin de la deuxième partie, fin de la vengeance d'une femme.